Chapitre 36. Être vivant, c'est ça qui compte. Vous souvenez-vous, monsieur le procureur, que je serai en congé dès vendredi soir? Comment pourrais-je oublier? Une semaine, vous serez tranquille, insiste Jocelyne. En effet, profitez bien. Vous partez? Non, je n'ai pas les moyens. Et puis je dois m'occuper de ma mère. Ce n'est pas comme ça que vous allez rencontrer l'amour. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, je suis satisfaite de ma situation. Ça vous ferait pourtant du bien. Probablement est-ce la première fois qu'Hervé fait à ce point montre de bienveillance et de sincérité envers sa greffière. Il est intimement persuadé que connaître le grand amour la rendrait moins acariâtre. Il ignore par quel miracle une rencontre heureuse pourrait se produire, mais si des spécimens comme elle existent dans la gente féminine, il doit bien s'en trouver parmi les hommes. Toute chaussure finit par trouver un pied, même s'il faut endurer quelques ampoules au commencement. À ce stade de la réflexion, le procureur se demande s'il a chaussé la bonne paire lui-même. Ça n'existe pas des ampoules qui apparaissent après des années de marche. Ou alors, est-ce le pied qui s'est modifié et qui n'entre plus? Célesta, dimanche 15 mai. Cher Hervé, j'ai lu votre courrier ce week-end durant mon séjour chez mes parents. J'aime ce village, qui sera bientôt le mien. Les montagnes alentour, l'espace qui fait du bien. La vue, la nature, les choses simples, leur bienveillance. Pardon de vous avoir secoué. Vous êtes pourtant grand et solide, d'après mes souvenirs. Ai-je eu cet effet-là, moi, toute frêle, petite femme abîmée? Je crois que votre option baratin serait active toute seule. Vous devriez vérifier les réglages. Allez, j'ai pitié de vous. Je vais donner la réponse à votre lancinante question « Où suis-je sur la photo ?» Je pense que vous allez m'en vouloir, voire ne plus me parler, du moins m'écrire. Quand je vous aurai dit qu'en fait, je n'y suis pas. J'étais absente ce jour-là. Au fond de mon lit avec 42 fièvres. Hervé ! Hervé, revenez ! Je plaisantais. Je suis dans la troisième rangée, cinquième en partant de la gauche. Petite chemise blanche et coupe courte. Voilà. Alors, ça change quoi? Tout? Rien? Dites-moi vite. L'attente du verdict risque de m'être insupportable. L'une de vos questions dans le précédent courrier est importante. Est-ce la vie que je voulais mener? Pour ma part, ce n'est pas la vie dont je rêvais. Elle s'est abattue sur moi comme un violent orage, sans parapluie. J'avais pourtant ma ceinture de sécurité. À partir de là. Choix 1. Pleurer toutes les larmes de mon corps et ne jamais m'en remettre. Faire 3 tentatives de suicide et finir ma vie sous antidépresseur. Choix 2. Faire avec et combler les manques et les souffrances par les plaisirs de la vie. Ceux, justement, que la tradition chrétienne suggère de limiter. Je dois travailler pour manger, mais j'essaye d'y trouver du plaisir. Pour le reste, je savoure toutes les petites joies simples que m'offre le quotidien, car ce sont elles qui m'aident à poursuivre. Écrire en est une. Vous écrire ajoute une cerise sur le gâteau. Ma situation est presque plus simple que la vôtre. Ça vous embouche un coin, non? Me concernant, les deux choix sont tellement extrêmes qu'on trouve facilement la réponse. De votre côté, cela semble plus flou. Vous avez une existence agréable, mais vous vous ennuyez. Tout quitter, pour moins vous ennuyer, est un choix difficile. Car le résultat mis en balance devant les contraintes ne pèse pas assez lourd pour rendre la décision évidente. En gros, en changeant de vie pour moins vous ennuyer, vous perdez beaucoup. En restant dans celle-ci pour ne rien perdre, vous vous ennuyez. Je crois que je ne supporterai pas l'ennui. Mais cet avis n'engage que moi. Je n'aurais pas eu le même discours la veille du feu rouge grillé. Je crois bien d'ailleurs qu'à cette époque, je m'ennuyais. De mon côté, j'ai quasiment tout perdu en une fraction de seconde. Le destin m'a déposé à une intersection où, n'étant pas du genre à me complaire dans l'amorosité, j'ai su instantanément quelle direction prendre. Cet échange que je peux avoir avec vous est un joli petit sentier sauvage qui longe ce nouveau chemin sur lequel il me plaît de me promener. C'est pour cela que je poursuis les lettres. J'aime vous écrire et vous lire. Un bon antidote à l'ennui. Surtout quand vous me sortez des horreurs. Avez-vous fait exprès de me comparer à une petite bombe venue mettre le fouillis dans vos certitudes alors que je venais de vous dire que les chirurgiens jouaient avec moi comme un puzzle en vrac? Allez, je ne vous en veux pas. J'aime l'idée de bousculer vos certitudes. J'aime surtout l'idée que cela vous soit agréable. Vous apprendrez le tact une autre fois. Et remerciez Dieu ou toute autre force vive, invisible et surnaturelle que je ne sois pas plus susceptible. Ne cherchez pas à formuler d'éventuelles excuses. Les femmes n'en ont pas besoin quand les hommes sont charmants dans leur maladresse. C'est votre cas. Est-ce que je viendrai de vous avouer que je vous trouve charmant? Ah non, pardon, j'ai dit que vous étiez maladroit. Je suis dure avec vous, n'est-ce pas? Je vous balance une terrible nouvelle dans la figure et je me moque de vous ensuite. Mais vous semblez doté de l'option humour. C'est tellement rare. Surtout pour un procureur de la République. Cela dit, je n'en connais pas d'autres. Peut-être sont-ils tous extrêmement drôles, sans que personne le sache. Je vous embrasse. Anaëlle, votre puzzle à deux choix. PS1. Mince, j'ai oublié de vous parler de mon amoureux. Acte manqué. PS2. Quelles étaient donc ses certitudes? PS3. Si, si, osez le dire. Je suis vivante, c'est ça qui compte. Strasbourg, mercredi 18 mai. Ma chère Anaëlle, je suis rouge de honte, dans les toilettes et où que j'aille. Comment ai-je pu vous comparer à une bombe dans mon jardin? C'était d'une maladresse impardonnable. Évidemment, aucun lien avec ce que vous m'aviez dit. Évidemment, ce n'était pas voulu. Évidemment, je suis un idiot. J'espère que je retrouverai grâce à vos yeux. Vous aussi, vous savez activer l'option baratin. Comment pourrais-je être charmant sur un coup pareil? Bien sûr, avant même de finir votre lettre, j'avais le nez sur la photo. Vous ne me croirez pas si je vous dis que je m'en doutais. C'est un peu vous que j'espérais. Est-ce cette force vive, invisible et surnaturelle que vous évoquez qui m'a susurré la réponse à l'oreille? La morale me suggère de jeter cette photo et de ne penser qu'à ma femme, celle de ma vie. Sic! Oui, j'ai une photo d'elle et de mes enfants sur mon bureau. Comme tout bon père de famille qui se respecte. Mais j'ai aussi votre photo, désormais découpée et auréolée dans la petite boîte métallique que vous m'avez offerte à la place du chocolat, bien à l'abri des acrimonieuses fouineuses. J'avais envie que ce soit vous. Et c'est vous. Cela change quoi? Tout. Je peux enfin vous imaginer quand je pense à vous. J'ai la confirmation que vous n'êtes pas un grand barbu pervers échappé de prison qui s'est fait passer pour une jeune étudiante dans le but de piéger un procureur de la République. Vous souriez, c'est ainsi que je vous imaginais. C'était avant l'accident, mais je sens que vous souriez encore, sur le conseil de votre chirurgien. J'ai pu découper la photo pour qu'elle rentre dans la petite boîte métallique. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Cela change quoi? Rien. J'ai toujours envie de vous lire et de vous répondre. Je savais déjà que c'était vous, mais vous ne me croyez toujours pas. Je vais attendre de vos nouvelles avec la même impatience. Ma greffière va continuer à me faire des allusions désagréables concernant vos lettres. Vous êtes vivante, c'est ça qui compte. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. N'oubliez pas deux fois de suite le sujet de votre amoureux, ça deviendrait suspect. Je vous embrasse. Hervé, votre petit sentier sauvage. PS. Les quelques procureurs que j'ai pu croiser sont des gens profondément ennuyeux. Si vous saviez, vous êtes tombé sur le bon. Célestat, vendredi 20 mai. Cher Hervé, mon amoureux de l'époque, nous aurons vite fait le tour de la question. C'était un mufle. Il est parti en courant juste après l'accident. Je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement puisque je suis restée 3 semaines dans le coma. Mais à mon réveil, c'est lui que j'ai cherché en premier. Et les infirmières ne savaient même pas qui il était. Il n'était donc jamais venu me voir. Mes parents ont essayé de l'appeler sans réponse. Aussi, un jour, alors que j'étais toujours à l'hôpital, mon père est allé chez lui. Savez-vous ce que le mufle lui a dit? Qu'il n'arriverait pas à supporter l'idée de vivre avec une femme toute cabossée en se sentant responsable de cet état. Et vous savez ce qu'a fait mon père? Il lui a mis son poing dans la figure. J'aime beaucoup mon père. Le type est donc sorti de l'accident avec un nez cassé et de ma vie avec lâcheté. Je m'en suis relativement bien remise, De son départ, pas de l'accident. Je comprends vite. Je suis comme ça. C'était pas de l'amour. S'il avait eu des sentiments véritables à mon égard, il aurait fait fi de mon état physique. Alors peut-être était-ce mieux ainsi. J'appelle cela la sélection naturelle par l'épreuve. Parfois on vit, ou devrais-je dire on vivote, en se disant que tout va bien, qu'on a une vie normale, que les gens qui nous entourent sont sincères, et puis, quand vient l'orage, on se rend compte de leur vraie nature. La guerre en est un bon exemple. Elle range les populations par catégorie. Les résistants, les lâches, les neutres. Cet accident était une déclaration de guerre du destin. Le type qui partageait ma vie est parti lâchement. Et moi, je résiste depuis. Croyez-vous vraiment qu'il soit utile que l'on se rencontre? J'aime ce rythme lent de nos échanges. Cette sorte de distance intime qui nous permet de ne lever le voile que sur ce que l'on souhaite, au fur et à mesure, en prenant le temps de réfléchir. J'aime pouvoir vous écrire au saut du lit, encore ébouriffé, ou à des heures tardives quand la vie s'endort autour. Aurions-nous vraiment des choses à nous dire en tête à tête? Je vous embrasse. Anaël, votre petite bombe à fleurs. PS1. Évidemment, je ne crois pas en vos dons de voyance à propos de la photo. Habituellement, les hommes sont pragmatiques et cartésiens. Ils ne sentent pas ce genre de choses. PS2. N'oubliez pas deux fois de suite le sujet de vos certitudes. Cela pourrait paraître suspect.